Frère Stuart, c'est un grand plaisir de vous avoir, d'avoir cette opportunité avec vous. Merci pour votre temps. On va vous interviewer. Si vous voulez nous dire brièvement votre témoignage, comment le Seigneur vous a sauvé.
D'accord. Alors, mes parents étaient tous les deux des chrétiens zélés. Mon père était militaire professionnel. Ma mère, d'origine galloise, elle était vraiment une dame pieuse. Et pendant mon enfance, on m'a enseigné deux leçons principales, c'est-à-dire, en premier lieu, ce qui compte dans la vie, c'est l'intégrité. Alors, il faut absolument que tu sois un homme intègre. Et l'autre leçon, c'est que les choses de Dieu sont plus importantes que toutes les autres choses du monde. Et j'ai vécu toute ma prime enfance avec ces deux convictions. Ce qui compte, c'est l'intégrité et aussi le monde spirituel, le monde invisible et le monde qui dure, le monde visible et le monde qui passe. Et voilà. Et j'étais comme ça jusqu'à l'âge de 14 ans. J'avais un grand respect pour mes parents, mais j'avais beaucoup d'amis. Je ne voulais pas me convertir parce que j'avais trop d'amis et j'avais peur de les perdre. Et je me suis décidé à renoncer à tout contact avec le christianisme pour vivre comme mes amis. Je savais que mes parents seraient tristes, mais j'avais pris la décision et pendant un week-end en 1957, je suis allé chez ma grand-mère. Paternel dans l'Essex, en Angleterre, pour y passer le week-end. Le dimanche matin, j'ai fait la grasse matinée et ma grand-mère n'a rien dit. Mais pendant l'après-midi, quelque chose de très bizarre m'est arrivé. J'avais une grande faim intérieurement. Et je voulais à tout prix me mettre en présence de la Bible. Et je ne savais pas pourquoi. Mais je ne voulais pas, absolument pas, je ne voulais pas me convertir. Alors, je suis allé dans une église baptiste libérale où on ne croyait pas que la parole de Dieu que la Bible soit la parole de Dieu. Et le culte commence. C'est vraiment, vraiment, vraiment ennuyeux. Cantique, prière, lecture biblique. Oh. Et jusqu'au moment avant la prédication, le pasteur a dit, je ne vais pas prêcher ce soir. J'ai invité un ami. Il va nous raconter son histoire, son témoignage personnel. Et pendant le témoignage, qui a duré 55 minutes, j'avais le sentiment que Dieu est présent. Et j'ai été envahi par cette conviction. Dieu est ici. Et j'avais peur. J'étais vraiment effrayé. J'ai pensé à Dieu, sa grandeur, sa sainteté. Et je craignais le jugement, je craignais l'enfer. Et j'ai crié à Dieu d'avoir pitié de moi. Je n'ai pas pu expliquer ce qui se passait à la croix, mais je savais que la croix de Dieu, la croix de Jésus-Christ pourrait très bien me sauver. Et pendant le culte, alors j'ai crié à Dieu de me sauver, d'avoir pitié de moi, et j'ai quitté le culte tout en tremblant, effrayé, désorienté. Je suis rentré chez ma grand-mère, deux, trois jours après, c'était le nouveau terme à l'école publique, quelque chose s'était passé, c'est clair, parce que un jour, je suis dans le couloir, voilà un maître, un professeur un nouveau que je n'ai jamais vu, il dit, tu es Olliot? J'ai dit, oui, monsieur. Toi et moi, nous allons commencer ici une réunion chrétienne dans cette école.
Et ça, c'était la première fois que vous avez rencontré cette professeure.
Je l'ai vu de loin.
Mais vous ne l'avez
C'était la
jamais
première
parlé.
conversation avec cet homme.
Wow.
Alors, quelque chose s'était passé, bien sûr, parce que j'avais une certaine réputation déjà, je ne sais pas pourquoi. Alors, nous avons commencé une réunion chrétienne dans le cadre de l'école publique. Et cela m'a mis tout de suite en appétit pour la cause de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Et voilà le commencement de ma vie chrétienne.
Merci pour partager avec nous. Quel âge avez-vous quand...
J'avais presque 15 ans.
15 ans.
C'était le mois d'août en 1957 et je suis né en 1942, en décembre, alors quelques mois juste avant mon 15e anniversaire. Ouais.
OK, wow. Ah. La bonté du Seigneur. Ah. Et donc... Quand vous avez commencé cette réunion-là avec un professeur, ça vous a influencé pour donc aller dans le ministère.
Oui, oui. Et je voulais prêcher. Alors, okay. Je suis allé chez les diacres de mon église, parce qu'on n'avait pas d'anciens dans mon église. Je suis allé chez les diacres et j'ai dit, je veux prêcher. Et ils m'ont dit, non, absolument pas, tu es trop jeune.
Cette même année-là, quand vous aviez
15
ans?
Non, j'avais 16 ans à cette époque.
16 ans.
Wow. Oui, un peu moins peut-être.
Okay.
Et donc, je suis allé chez le pasteur méthodiste, qui était libéral, et je dis, je veux prêcher. Et il a dit, c'est sympa, c'est fantastique, nous avons besoin de prédicateurs pour nos petites églises à la campagne. Wow. Alors, je suis devenu méthodiste, d'une certaine manière, et pendant toute une année, je suis allé à la campagne, prêcher dans les petites églises, au Diable Vauvert et ailleurs. Okay. Et après une année, mes diacres m'ont dit, « Ah, tu prêches pour les méthodistes ?» J'ai dit, « Oui, je prêche pour les méthodistes depuis une année presque. »« Ah, tu dois prêcher pour nous. » Et à ce moment-là, j'ai reçu l'autorisation de prêcher dans mon église locale.
Wow. Qu'est-ce que tes parents ont pensé à cette expérience-là? Vous étiez trop jeune, comme 17 ans.
Oui. J'ai prêché mon premier sermon le jour avant mon 17e anniversaire.
Comment ça s'est passé? Comment était votre premier?
C'était affreux. j'ai prêché sur le chrétien comme athlète, comme... Ouais.
OK. Wow.
Suivant les illustrations utilisées par l'apôtre Paul.
OK.
Ouais.
Ah. Wow. Ouais.
Et j'ai toujours le manuscrit complet.
Que tu as utilisé.
À la maison, oui, je l'ai gardé.
Wow. Ouais. Ah. Et donc, c'est comme ça que vous avez commencé votre vie à...
Oui, et j'avais de plus en plus la conviction que je devrais devenir missionnaire. Parce que dans mon église, si on était zélé, il fallait aller au champ de mission.
Yeah.
Et alors, j'ai décidé de prier pendant 6 mois. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je devienne missionnaire, alors que la conviction soit impossible à résister.
Okay.
Et si tu veux que je fasse autre chose, je suis prêt à faire autre chose et je veux que cette conviction va diminuer.
Okay.
Après 6 mois, le feu était brûlé dans mon fort intérieur.
Oh.
Et,
oh.
Alors je suis allé chez un diacre, d'autres diacres, et je vais devenir missionnaire. Et l'église m'a envoyé au séminaire à Londres.
Okay.
Et dans ce séminaire, dans cette faculté de théologie, on faisait 2 choses à la fois. On faisait le diplôme de l'école biblique et en même temps, on faisait la licence en théologie de l'Université de Londres.
OK.
Alors, je faisais 2 choses à la fois.
Tu as fait les deux.
Et pendant cette période d'études, qui a duré 3 ans, souvent, on me disait, Stuart, tu devrais devenir pasteur. Et je dis, je ne veux pas. Les gens qui sont zélés, eux, ils deviennent missionnaires.
Missionnaire.
Et les gens qui sont moins zélés, eux, ils deviennent pasteurs. Mais j'ai fait quand même une alliance avec Dieu, j'ai fait une promesse à Dieu. Seigneur, si tu veux que je devienne pasteur, je suis prêt à devenir pasteur, à condition que je reçois un appel unanime d'une église. Et pendant ma dernière année, j'ai reçu un appel unanime d'une église à Londres.
Qu'est-ce que ça veut dire, un appel unanime à l'église?
C'était de tous les membres sont ensemble, sans aucune exception, sont d'accord que je sois le pasteur.
Oh, wow.
Alors, dans cette petite église baptiste de Londres, j'avais prêché plusieurs fois dans cette église et les membres se sont mis ensemble pour prendre une décision. Ils ont fait un appel unanime. Et en décembre 1960 ou quelque chose comme ça. Et en 1963 et en 1964, je suis devenu leur pasteur. Dans l'est de Londres, dans les bas-fonds.
Okay.
Les bas-fonds de Londres.
Vous aviez à peu près 20 ans à ce moment-là, donc?
J'ai reçu l'appel quelques jours avant mon 21e anniversaire.
OK. Ouais. Donc, c'est là que vous avez commencé votre...
Et j'ai commencé l'été suivant, parce que l'année académique chez nous commence en septembre jusqu'à juillet.
OK. Ouais. Wow.
Alors, j'ai fini à l'école biblique en juillet et je suis devenu le pasteur en août. 1964.
L'Église avait combien de membres?
Peut-être une trentaine. Et le matin, une trentaine de personnes au culte. Le soir, probablement une cinquantaine. Okay. Parce qu'à l'époque, c'était le culte du soir qui était plus important que le culte du matin. Oh. Ce qui n'est plus le cas en Angleterre.
OK, ouais. Je ne savais pas. OK. Ouais. Ouais. Donc, vous avez commencé trop jeune.
Très jeune, en tout cas.
Yeah. comment vous avez donc trouvé votre vie comme pasteur qui avait 21 ans et je crois que vous aviez des membres qui étaient...
Très âgés.
Très âgés que vous.
Oui, bien sûr, mais il y avait quand même des jeunes.
OK.
Et on a vu des conversions presque tout de suite. Et l'Église était assez contente de mon ministère parce que le Seigneur, dans sa grâce, a décidé de sauver quelques jeunes et d'autres personnes encore.
Okay. Amen. Ouais. Yeah. Ouais. Très encourageant.
Très encourageant. Était dans les bas-fonds, près du port, près des navires, les bateaux comme ça. Et la plupart des gens étaient de la classe ouvrière. C'était des gens simples, sans prétention. Mais quand même, le Seigneur a béni le ministère. Mais j'avais un problème.
Quel problème?
Le problème, c'était que l'Église était dans l'Union baptiste. Et dans l'Union baptiste, on avait des églises évangéliques et des églises libérales. Ah. Et après 3 ans, j'avais des problèmes de conscience. Je ne voulais pas rester dans une dénomination dite mixte, comme on dit en anglais, où on avait des évangéliques et des libéraux ensemble dans la même... Communion.
Oui, je vois ça.
À ce moment-là, je suis allé voir monsieur le docteur Martin Lloyd-Jones, qui m'a donné de très bons conseils. Et presque au même moment, j'ai reçu un appel unanime d'une église indépendante baptiste à Liverpool, aussi dans les bas-fonds, près du port.
Wow! Le Seigneur était présent dans votre vie.
Donc, en automne 1967, je suis devenu pasteur de l'église de Belvedere Road à Liverpool.
OK. Donc, vous étiez à votre première église pour 3 ans.
3 ans et quelques mois.
OK. Quelles étaient certaines des raisons que Lloyd-Jones vous a données?
Lloyd-Jones... Il avait déjà fait des déclarations publiques à ce sujet. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de remous dans le monde évangélique en Angleterre, au Pays de Galles et ailleurs. Et la plupart des évangéliques dans les dénominations dites mixtes étaient en train de quitter les dénominations pour commencer des églises évangéliques. Ouais. Alors, je me trouvais maintenant dans une église baptiste, évangélique, indépendante, mais pas réformée, pas calviniste.
OK.
C'est plutôt une église dispensationaliste, assez arménienne, mais il y avait des anciens et des diacres, et les anciens étaient en train de lire toute la littérature réformée qui était disponible à l'époque.
OK. Ouais. Si on peut changer de sujet un peu, je me demande pour notre audience, si vous pouvez partager avec notre audience, c'est quoi l'Évangile, le message le plus important de la Bible?
Oui, qu'est-ce que l'Évangile? C'est ça la question. C'est assez facile à répondre, parce que l'apôtre Paul nous en donne la réponse dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre, et les premiers cinq versets, n'est-ce pas?
Quinzième verset, quinzième chapitre.
Quand on dit évangile avec un petit « e », ça veut dire le grand message de toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Mais quand on dit évangile avec un « e » majuscule, « e » majuscule, ça veut dire en fait Matthieu, Marc, Luc, Jean. Oui. L'évangile est le grand message de toute la Bible qui est résumé bien sûr dans Jean 3, 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Amen. J'ai une question pour, donc, à ce verset-là, Jean 3, 16.
Yeah, oui.
C'est une verset très profonde, mais aussi très simple.
Très, très profond et très simple, oui.
Vous pouvez essayer à nous, donc, à expliquer les deux, comment est-ce que c'est profond et comment c'est très simple.
En tout cas, tous les fondements de l'Évangile se trouvent dans cette seule phrase. Et on a une vingtaine de mots. On a Dieu, on a le fait de périr à cause de notre péché, on a la grâce, la gentillesse, la tendresse de Dieu qui donne un sauveur. Ce sauveur est envoyé par le Père, mais c'est le sauveur qui est mort à notre place, est ressuscité pour notre salut. Et on a la grande invitation de venir. L'Évangile est pour quiconque croit en lui. Ce qu'on reçoit, c'est la vie de Dieu, la vie éternelle, parce que Dieu est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a une vie, une sorte de chimie, une sorte d'électricité à l'intérieur de Dieu. Et c'est la vie éternelle. Il y a une explosion éternelle, une explosion divine à l'intérieur de la divinité. Et nous sommes invités à avoir la communion avec ce Dieu, à jouir aussi de cette vie-là.
Amen. une autre question, c'est s'il y a une personne qui se demande, donc je lis la Bible et je vois que un vrai chrétien, c'est un chrétien qui a été né du Saint-Esprit.
Oui.
Mais je ne sais pas si donc ma vie chrétienne, c'est mes propres efforts ou bien si je suis une création nouvelle. Comment vous pouvez donc aider cette personne-là à naviguer leur expérience?
Oui, oui.
Yeah.
Tous les gens qui sont nés de nouveau, qui sont nés spirituellement, aiment le Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient que Jésus a vécu, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il siège dans le ciel, qu'il va revenir. Et ils aiment la personne, mais aussi l'œuvre du Fils de Dieu. C'est-à-dire, et si on croit que Jésus est vraiment Fils de Dieu, on ne veut pas se séparer de lui. On veut le suivre, on veut le proclamer, on veut l'adorer, on veut l'aimer. Et on ne prend jamais ses distances de Jésus. Et on est attaché, uni même, à Jésus-Christ. Alors, si on aime vraiment, intérieurement, on aime cette personne, on est vraiment né de nouveau.
Amen. Donc, il n'y a
même si on ne comprend pas toutes les autres choses, ce qui nous attire toujours, c'est la personne de Jésus-Christ. Cette personne réelle qui vit toujours.
Donc Jésus est très précieux pour chrétiens.
Pour vous qui croyez, dit l'apôtre Pierre, il est précieux.
Amen. Ouais. Il n'y a pas de chrétien qui vit une vie distante de Jésus-Christ.
Impossible. Ça, c'est la voie du monde.
Yeah. Ouais. Et
Jésus dit, si, Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître comme chrétien quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. Tous les chrétiens aiment le Sauveur.
Amen. Amen. Si on retourne à votre conversion,
oui,
quand le Seigneur vous a sauvé, parle-nous de cet amour-là que vous avez donc expérimenté pour la première fois, l'amour que vous aviez pour le Seigneur Jésus-Christ.
Oui, j'ai vu dans ma vie quelque chose de différent, hein, mm. que je ne pourrais pas très bien expliquer, bien sûr, parce que j'étais conscient d'un changement. Yeah. Quelque chose s'est passé dans mon fort intérieur, parce que je voulais garder mes distances, mais maintenant je suis captivé par Jésus-Christ.
Amen.
Et je veux le proclamer. Je l'admire de plus en plus. Et je parle de lui à mes amis. Et je n'ai pas perdu mes amis. C'est ça qui est bizarre.
Amen.
J'avais peur de perdre mes amis. Et bien sûr, il y avait une certaine différence de relation, de rapport. Mais quand même, j'ai pu garder toutes mes amitiés.
Amen. Ouais. Yeah.
J'ai reçu, bien sûr, des gens qui se moquaient de moi parfois. Mais vraiment, tous mes amis sont restés mes amis.
Mm. Yeah. Amen. Yeah. Yeah. Envers cet amour encore, si vous pouvez, il y a un mouvement qui dit que les émotions, quelle est la place des émotions? La place, comment expliquer l'amour? Est-ce qu'il y a des émotions dans l'amour ou bien ce n'est que...
Oui, le christianisme est un tabouret qui a trois jambes. Okay. Et si on enlève une jambe, bien sûr, le tabouret tombe par terre, n'est-ce pas?
OK.
Il est très important de voir qu'il y a toujours trois éléments dans le véritable christianisme. Le christianisme de la Bible et surtout du Nouveau Testament est un tabouret de trois jambes. Et on a tout d'abord, on a la doctrine, ce que nous croyons. Et ensuite, nous avons l'éthique, ce que nous faisons, c'est notre comportement. Et entre les deux, nous avons l'expérience, c'est-à-dire ce que nous sentons, parce que nous avons une expérience réelle d'une personne qui vit toujours, qui est réelle, invisible, oui, mais quand même, cette personne est présente et nous le connaissons et nous l'aimons et nous ne voulons pas nous séparer de lui. Oui. Et quelque chose nous est arrivé dans notre cœur, dans notre fort intérieur, parce que nous avons ce que le Nouveau Testament appelle le fruit de l'Esprit. Et nous avons l'amour. L'amour, oui. Parce qu'on aime Dieu et on aime son voisin, bien sûr. On a la joie. Alors, la joie est un sentiment. Bien sûr, on a la joie. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes justifiés. Nous sommes devant Dieu ne trouve aucune faute en nous parce que, en fait, Jésus, il a pris nos péchés et nous avons imputé sur notre... imputé sur notre compte la justice de Jésus-Christ. Sa vie parfaite a été mise sur notre compte. Alors, on a un grand soulagement. Le soulagement est une émotion, c'est un sentiment. Et en fait, ce soulagement s'appelle la joie. On
Amen.
Nous a pardonné.
Amen.
Et pour cette raison, on a la paix. Et selon les puritains, qu'est-ce que la joie? C'est la paix qui danse. Et qu'est-ce que la paix? C'est la joie qui se repose.
Wow! Ça, c'est la première fois que j'écoute
c'est une citation puritaine.
OK. Wow. Donc,
et c'est mon expérience.
Amen.
Et Jésus, il dit que la vie chrétienne est une vie de bonheur. Et il dit, bienheureux sont, il commence son ministère par les béatitudes.
Amen.
Et nous sommes des gens qui sont heureux. Nous sommes remplis de joie.
Ouais. Amen.
Parce
Amen.
Que nous sommes des citoyens de la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus des citoyens de ce monde. Et nous avons une autre destinée. Et il y a un foyer céleste qui nous attend. Ouais. Impossible de rester neutre. dans cette situation. Ouais, voilà. Et si on n'est pas ému devant ce que dit la parole de Dieu, où est la nouvelle naissance?
Amen. Ouais. Amen. Merci beaucoup.
Voilà, je parle trop, pardon.
Non, pas de problème. Donc, si on parle un peu de votre vie, donc, pastorale.
Oui.
Donc, si je me souviens, vous avez commencé à 17 ans, vous êtes allé sur l'université pour donc recevoir votre licence de la théologie.
Oui, j'avais deux licences à la fois. Yeah. On avait la licence de l'école biblique à la licence de l'université de Londres. Ouais.
Donc, de 17 ans, 21 ans, vous avez commencé dans la première église.
Oui.
Et vous étiez pasteur pour combien d'années?
J'étais prof de séminaire, enfin, plus de 60 ans.
Plus de 60
oui,
ans.
Oui. Parce que même après la retraite, je me suis occupé d'une petite église au Pays de Galles. Pendant un certain moment, je n'ai pas prêché parce que ma femme était malade et en train de mourir. Yeah. Et ensuite, j'ai repris une petite église ailleurs au Pays de Galles pendant quelques années jusqu'à le mois d'octobre passé. Ouais. Wow. J'ai 8 ans, 2 ans maintenant. Je ne suis pas encore à la retraite, mais je suis retraité officiellement depuis l'âge de 65 ans.
Donc, vous étiez dans le ministère pour il y a beaucoup d'années.
Oui.
Quand vous regardez donc en arrière,
oui.
Quels sont certains de... Comment vous avez pu faire ça pour beaucoup de temps je crois que peut-être il y avait des saisons décourageuses. Comment est-ce que vous avez continué? Restez fidèle à votre appel que le Seigneur vous avait.
Alors, il faut connaître son Dieu. C'est une jambe.
Yes.
Il faut connaître soi-même. Il faut se connaître. Okay. C'est deux jambes. Voilà les deux jambes. Et en ces deux jambes, on reste debout. Mm. On connaît son Dieu et on se connaît. On connaît soi-même. Alors, on a deux bras aussi.
Ça veut dire?
Alors, on connaît son troupeau. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, on les connaît. On les connaît bien. On entre dans la maison, on est hospitalier, ils sont toujours invités 24 heures sur 24 chez nous, et on a des amitiés, des rapports, des relations qui sont chaleureux et accueillants. Et on connaît aussi son boulot.
Expliquer.
Et son boulot, il y a cinq doigts ici. Donc, d'abord, on essaie de donner un bon exemple de la vie chrétienne à tout le monde. En deuxième lieu, on est un homme de prière. En troisième lieu, on est un prédicateur de l'Évangile. En quatrième lieu, on essaie de prêcher toute la parole de Dieu, tout le conseil de Dieu. Et en cinquième lieu, on se soucie de son troupeau et on essaie de les protéger, de les nourrir, d'être un véritable berger. Mm. Et voilà.
Amen.
Mais en se connaissant, bien sûr, on dort bien, on mange bien, on a des exercices pour maintenir son santé. On a des jours de congé. On essaie de passer assez de temps avec son épouse et ses enfants. Et il est très important d'avoir une vie équilibrée.
Ça allait être une autre question. Donc, comment est-ce que vous avez équilibré votre responsable comme pasteur?
Right.
Responsable.
On
comme
ne peut pas tout faire.
Et comme papa.
Oui, nous avons tous des limites et il faut les connaître.
OK.
Oui. Alors.
Ça vous a pris combien de temps pour connaître vos limites et comment vous avez compris vos limites?
Parfois, je suis tombé malade. Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai trouvé que mes limites physiques, j'étais beaucoup, beaucoup plus limité que je ne pensais. Sur le plan physique, bien sûr, ouais, etc. petit à petit, on trouve soi-même. On arrive à se connaître petit à petit.
Yeah. Oui.
Et on a aussi des limites intellectuelles, bien sûr. Si on travaille trop, on ne peut pas retenir les nouvelles informations. C'est impossible.
Okay. Oui.
Et si on ne reste pas debout assez souvent, on n'arrive pas à prêcher parce qu'on a perdu le...
Wow. Yeah. So, il faut vraiment reconnaître nos limites et rester...
Sur tous les plans. Physique, les limites physiques, émotionnelles, intellectuelles, spirituelles, nous avons tous des limites, oui, bien sûr.
Quels sont des conseils que vous pouvez donner à une personne, un jeune pasteur qui pense que si je mets limites dans cet endroit, si je ne suis pas fidèle à mon appel, comment est-ce que... Quels sont des conseils que vous pouvez leur donner? Peut-être que leur...
La première brebis du troupeau, c'est mon épouse. Si on ne peut pas prendre soin de son épouse, on ne peut pas prendre soin du troupeau. C'est impossible. Et maintenant, on a les agneaux. Les premiers agneaux sont mes enfants. Alors, devant Dieu, je dois m'occuper de mon épouse et de mes enfants. Je dois le faire. En tant que chrétien, en tant que père, en tant qu'époux, je dois le faire. Et parce que je dois donner un exemple. Et c'est ma première responsabilité en tant que pasteur, est de donner un exemple de la vie chrétienne au troupeau. Pour le Nouveau Testament exige que le pasteur ait 19 qualités. Dont 17 ont un rapport avec l'exemple que nous donnons au troupeau.
Amen.
Oui.
Amen.
Yeah. Oui. L'exemple est l'essentiel. Parce que on avait toujours des illettrés qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, alors, il leur est impossible de découvrir eux-mêmes ce qu'est la vie chrétienne. Ah, mais voilà, lui, c'est un exemple de la vie chrétienne. Et c'est à nous de donner cet exemple-là.
Ouais. Ouais. Amen.
Ouais.
Yeah. Est-ce que vous avez pris des actions, je ne veux pas dire passives, mais actives à vivre avec votre... Qu'est-ce que vous avez fait pour donc vivre avec vos brebis, donc pour qu'ils vous... connaissent personnellement et qui
pour
le
Encore, bien sûr, j'ai rendu visite à tous les membres et tous ceux qui fréquentaient l'église, bien sûr, d'une façon régulière. Okay. Et bien sûr. Et j'étais capable, en fin de compte, de dire quel était l'emploi, l'horaire personnel de presque chaque membre, les circonstances financières et tout, de ce genre. Et je joue, bien sûr, avec les enfants et avec les petits-enfants. Il faut toujours avoir les yeux sous le regard de l'enfant. De cette manière, on arrive à avoir un très bon rapport avec l'enfant. Alors, si l'enfant est très petit, il faut se mettre vraiment par terre, sur le tapis même ou sur le plancher pour avoir une conversation avec un petit. C'est la seule manière de gagner la confiance des petits.
Ouais. Amen.
Ouais.
Amen.
Et il faut rendre visite au troupeau d'une façon régulière. Non, nous sommes en mort, bien sûr, mais tous les anciens aussi doivent le faire. Parce que nous sommes tous ensemble bergers de notre troupeau. C'est pas une responsabilité individuelle seulement. C'est la responsabilité de chaque ancien aussi de faire la même chose.
Amen.
Ouais. Et aussi, notre maison était ouverte 24 heures sur 24.
24 heures sur 24?
Ah oui. Okay. Et souvent, on avait des jeunes chrétiens. Et le parent n'était pas vraiment
présent.
N'aimait pas du tout que les enfants soient chrétiens. Alors voilà un jeune chrétien, et ses parents sont hostiles, et voilà, arrive la soirée, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je vais rendre visite aux Oliotes, la porte est ouverte. Et il est important qu'il soit libre de venir sans invitation et sans donner une raison de leur visite.
Wow.
Parce qu'il avait besoin simplement d'être en présence d'autres chrétiens. Ouais.
OK.
Ouais. Et nous étions dans les bas-fonds où la culture est tellement différente, les gens se lèvent tard et ils se couchent tard aussi.
Comment ça
et
se passe?
Et les gens arrivent à la maison jusqu'à minuit assez souvent.
Wow.
Ouais, ça. Alors, donc pendant tout mon ministère à Liverpool, je ne me suis jamais couché le même jour de...
Wow.
Je me suis couché toujours dans les petites heures, comme on dit en anglais, c'est-à-dire après minuit.
Wow.
Pendant de nombreuses années, oui.
Wow. Mais votre femme aussi?
Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Wow. Ouais. Mais vous avez toujours, donc... Mais vous connaissez vos limites. Hein?
Oui, mais quand même, j'ai dû faire une petite sieste après.
OK, je vois.
Au début de l'après-midi, parce qu'il est impossible de survivre autrement.
je comprends. Donc, vous pouvez nous dire donc comment était votre famille, votre femme, combien d'enfants et...
Ah oui, nous avons... C'est une très longue histoire, trop longue pour cet entretien.
Dans trois minutes, ou cinq.
On avait une famille à plein temps de huit garçons. Quatre de ces enfants se sont invités eux-mêmes à devenir membres de notre famille. un garçon nous a été donné et trois garçons nous sont venus à cause de l'autorité locale, le gouvernement local. On avait huit enfants que nous avons adoptés. Aussi, il y avait d'autres enfants, huit autres enfants qui étaient là pendant les week-ends ou pendant les vacances ou etc. Wow. Ouais. On avait on avait une toute petite maison et on a acheté la maison à côté et on a fait des trous. Ouais. On avait deux maisons qui se touchaient comme ça. Wow. Et on avait beaucoup de petites pièces.
Wow. Quels sont les conseils que vous avez pour donc des parents qui ont toujours des enfants à la maison et particulièrement comment est-ce que partager l'évangile avec les enfants
en tant que parent?
En tant que parent.
Ah oui. Yeah. Après le petit déjeuner, en Suisse on dit le déjeuner, mais en France c'est le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, on a toujours eu un culte famille qui a duré environ 15-17 minutes.
OK.
On avait une prière, une brève lecture de la Bible, une brève lecture d'un petit commentaire sur le livre, quelques questions appropriées parce que bien sûr, les questions pour les plus grands étaient différentes des questions posées aux plus petits. On a chanté un psaume ou un extra d'un psaume ensemble. J'ai prié à la fin et voilà. Et après tout cela, les garçons sont partis pour l'école ou pour le boulot. Le soir, on a passé un moment individuel avec chaque enfant.
Avec chaque enfant.
Oui.
Comment vous avez fait ça? Vous aviez huit enfants au moins.
Oui, oui. Oui. Parce que, mais il avait un petit cas. Chaque enfant avait son heure de coucher.
OK.
Son heure à lui.
OK.
Même s'il n'avait qu'une différence de 15 minutes.
OK.
Oui. Alors, l'enfant se trouve au lit. Maintenant, moi, d'ordinaire, mais sinon, pas moi, Dol, mon épouse, on était là. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des choses que tu veux raconter? Est-ce que tu as des plaintes? Est-ce que tu as des suggestions? On faisait comme ça chaque nuit avec chaque enfant et chaque enfant avait la possibilité, l'opportunité d'avoir un moment seul avec un parent tous les jours.
Et
c'était très important de faire ça.
Wow. Qu'est-ce qui vous a fait, donc, vous a influencé de faire cela?
Parce que tous les enfants sont différents. On avait des besoins différents. Et tous nos enfants avaient des histoires vraiment affreuses. C'est pour cela qu'ils se sont joints à nous, qu'ils sont devenus membres de notre famille. Ils avaient besoin de parler individuellement sans que les autres soient là.
Wow.
Ouais.
Amen, amen. Si on parle, donc, change de sujet un peu pour parler de la prédication.
La prédication, oui. Ce qui n'est pas la chose la plus importante.
Ce qui n'est pas la chose la plus Commençons là. Expliquez ce que vous voulez
Parce que
dire.
l'exemple est le plus important. Ensuite, la prière. Nous allons nous donner à la prière, ont dit les apôtres. Nous allons nous
Amen.
donner à la prière et à la prédication de la parole de Dieu. D'abord la prière, ensuite la prédication.
Donc, exemple,
Oui.
prière, la prédication.
Oui.
Vous avez parlé de les. On va retourner à la prédication, mais
Oui.
peut-être qu'on peut parler un peu de la prière.
Oui.
J'ai écouté certains de vos interviews et vous parlez beaucoup de la prière.
Oui, bien sûr.
Vous pouvez donc.
La prière, c'est dire à Dieu tout ce que vous avez sur le cœur en ce moment.
Tout ce que vous avez dans.
Oui, tout ce que vous avez sur le cœur en ce moment. Tout ce qui vous concerne en ce moment. Alors, on dit à Dieu tout ce qui vous concerne, tout ce qui est sur votre cœur maintenant. C'est ça la prière. Alors, on a des questions, on a des requêtes, etc. On a des moments d'adoration, bien sûr, des moments de confession, des moments d'intercession, des moments de pétition, des moments de consécration, mais quand même, c'est dire à Dieu tout ce que j'ai sur le cœur en ce moment. C'est ça la prière. Et je n'aime pas les méthodes de prière, moi.
Qu'est-ce que vous voulez dire par les
Parce
méthodes?
que les puritains et les autres, ils ont recommandé à le troupeau qu'ils suivent des méthodes. Alors, on commence par ça, puis on fait ça, ensuite ça, alors ça. Moi, non, 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 c'est pas la prière. C'est mon Père céleste. Je parle à mon Père céleste. Un enfant, il n'a pas de liste de matière avant de. Il s'approche de son père et il ouvre son cœur et il parle à son père. Alors, je parle à mon père, je parle à mon sauveur, je parle à celui qui se trouve dans mon cœur, le Saint-Esprit. On parle à ce Dieu trinitaire d'une façon tout à fait naturelle. Ouais. Ouais.
Qu'est-ce que vous direz à une personne, quel que soit un pasteur, un missionnaire ou une autre personne qui dit que je suis trop busy,
Oui.
j'ai pas vraiment le temps de, je n'ai que 5 ou 3 minutes pour
Non,
prier.
non, 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 non. S'il est trop occupé, il est trop occupé. La prière est plus importante que la prédication. À quoi bon prêcher si Dieu n'est pas avec nous? Et d'où viennent mes messages si je n'ai pas consulté l'auteur du livre que je prêche? Ouais. Non, 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 non. La communion avec Dieu n'est pas un devoir, n'est-ce pas? C'est une joie, c'est un privilège, c'est un plaisir. Nous sommes membres de sa famille. Et c'est moi que Dieu m'a choisi parce qu'il veut avoir moi. Il veut m'avoir, moi.
Soit il faut jamais mettre votre responsabilité comme pasteur avant de votre donc vie personnelle.
Ma première responsabilité, c'est de connaître Dieu et de marcher avec lui et de marcher dans l'intimité. C'est ma première responsabilité. Et tous les autres découlent de cette relation qu'on a avec le Seigneur.
Donc, ce n'est pas un choix de ne pas avoir
Non,
une
ce n'est pas
vie.
un choix. Non, non, non. Oui.
Amen. Comment est-ce que, quelles sont certaines des influences dans votre vie parce que, donc, qui vous ont influencé d'avoir cette perspective-là que la prière est très importante, plus importante que n'importe.
Parce que il y avait des pasteurs qui m'ont pris en charge au début de mon ministère, qui s'intéressaient à moi et qui m'ont enseigné toutes sortes de choses. Et eux, toujours, tous ont souligné l'importance de la prière, l'importance de connaître Dieu. Et eux, ils disaient souvent, Stuart, nous avons affaire avec Dieu, nous allons le chercher aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous joindre à nous pour chercher Dieu ensemble? Et voilà le genre de choses qui se passait. Amen. Eux, ils aimaient le Seigneur, donc ils aimaient la prière. Mm-hmm. Parce que c'est la même chose.
Amen, amen.
Parce que si on aime quelqu'un, on mm-hmm. désire d'être avec cette personne. Ouais. Si j'aime mon épouse, je ne garde pas mes distances, n'est-ce pas? Je veux passer du temps, beaucoup de temps avec elle.
Amen, ouais. Amen, yeah. Donc, comment est-ce que donc, vous voyez donc, le rôle des pasteurs, comme vous avez, il y avait des pasteurs dans votre vie qui vous ont pris en charge.
Oui, oui.
Comment est-ce que les pasteurs qui sont matures peuvent aider les jeunes pasteurs à comprendre les choses les plus importantes?
Donc, oui, on doit passer du temps avec les jeunes pasteurs. C'est la seule manière de les donner un coup de main. Oui. Mais ce que je recommande à tous les jeunes pasteurs, c'est de se promener. Et moi, d'ordinaire, dans ma vie ordinaire, et même aujourd'hui, je fais un bout de promenade tous les jours. Et le but de cette promenade est simplement de marcher avec Dieu, de parler à lui, de l'adorer, et de sentir les fleurs qu'il a créées, de voir les couleurs qu'il a créées, d'admirer la création qu'il a créée.
Amen.
Voilà. D'ordinaire, je fais un bout de promenade tous les jours, même maintenant. Même s'il pleut, il y a...
Vraiment,
ouais, okay. Pourquoi pas.
Même quand vous étiez jeune aussi, vous faisiez ceci
Quand j'avais 18 ans, ma famille a déménagé parce que j'étais fils de militaire et je me suis trouvé dans le sud du pays de Galles, à la campagne, et je ne connaissais personne dans cette région. Alors, j'avais quitté l'école, mais je n'avais pas encore commencé à l'école biblique. Et j'avais 6 semaines, 8 semaines dans un comté que je ne connaissais personne. Et je n'avais pas de transport, je n'avais pas de véhicule, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de bus, il n'y avait même pas de... Oh oui, j'avais une bicyclette, c'est tout. Alors, chaque matin, j'ai passé la matinée à étudier la langue grecque. Et l'après-midi, je suis promené un peu partout et j'ai trouvé qu'il était facile de prier en plein air. Et même de chanter et parfois de parler de vive voix. Et j'ai trouvé une liberté à l'extérieur que je n'ai jamais trouvée à l'intérieur. Et j'ai pris une leçon importante pour ma vie et j'ai gardé cette pratique, cette habitude jusqu'à présent.
Ouais. Amen, ouais. Amen. Ouais. Vous avez aussi, vous connaissez le livre Power Through Prayer.
Oui, oui, La puissance par la prière, qui existe en français.
Ça existe en français?
Ah oui, oui. Okay. Ce livre est très, très bien traduit. Oui.
Amen. Je vous ai écouté dire que ce livre aussi a eu une grande influence sur vous.
Oui, j'ai trouvé ce livre dans une petite librairie chrétienne quand j'avais 18 ans. Je l'ai lu tout de suite et j'ai lu que ce que Dieu cherche non seulement de grands prédicateurs, Dieu cherche des hommes de prière. Et j'ai trouvé que sans l'intervention de Dieu, rien ne se passe. Rien ne se passera. Alors, ce livre m'a mis en appétit. Et j'ai décidé d'explorer la vie de prière. Et même maintenant, je lis la prière, la puissance par la prière, d'ordinaire plusieurs fois par année, mais au moins une seule fois par année. Wow. Ouais. Yeah. Et ce que je prends une phrase et ça me pousse à prier. Et je fais la lecture de la phrase suivante et ça me pousse à prier. Et, wow. Il y a quelque chose dans ce livre qui est inexplicable. Il y a une sorte de sainte influence que je sens quand je fais la lecture de ce livre. Le livre n'est pas parfait. Il ne parle pas assez de la croix, à mon sens. Mais sur la prière, c'est un livre extraordinaire.
Ouais. Amen. C'est quelque chose-là. Si donc on va à la prédication, vous avez aussi parlé de l'onction.
L'onction, oui.
Yeah. Vous avez dit que l'onction est essentielle.
Oui.
Vous pouvez expliquer.
Alors, dans notre petit village dans le sud du Pays de Galles, venait chaque année un homme qui s'appelle Howell Griffiths, gallois, un des trois hommes qui s'est occupé de moi. Alors, Howell Griffiths, il donnait des sermons assez longs. D'ordinaire, il prêchait 75 minutes. Ses prédications étaient très visuelles, très faciles à suivre. Il aimait l'auditoire. C'était clair comme le jour que cet homme aimait l'auditoire. Mais pendant la prédication, on était conscient d'une autre voix. On entendait la voix de Howell Griffiths, mais dans son cœur, dans son âme, on entendait une autre voix. Et petit à petit, Howell Griffiths disparaissait pendant le sermon et on était conscient d'avoir des relations immédiates, sans médiation, directes avec Dieu. Dieu me parlait. Et c'est ça l'onction. Je suis conscient de la présence de Dieu. Je suis conscient, j'ai affaire avec Dieu. Dieu me parle. Il n'y a pas de médiation. Dieu est en train de parler à mon âme, à parler à mon cœur. Et c'est ça l'onction. On est conscient de la présence de Dieu et de ses rapports personnels.
Est-ce que vous direz que l'objectif du prédicateur, comme vous venez de le dire, c'est de disparaître et donc mettre leur audience et Dieu en relation.
C'est l'idéal, oui, mais c'est en fait, oui, bien sûr, mais l'ambition du prédicateur, c'est de prêcher de telle sorte que chaque personne prie à la fin du sermon. Parce qu'on n'est pas là simplement pour donner des informations. On est là pour changer les vies des personnes présentes. Et on veut que chacun prie à Dieu, que chacun s'approche de Dieu, que chacun vienne à Dieu suite à la fin de la prédication. C'est le but de la prédication. Oui.
J'ai écouté d'autres, peut-être que vous avez dit ça aussi. Vous pouvez élaborer un peu sur le moment où après la prédication, la prière que vous parlez, c'est, on peut prier juste après la prédication, ou bien vous voulez aussi que la personne donc pense à la prédication, même après, quand la personne est à la maison.
Oui, bien sûr, mais si l'onction est sur la prédication est inoubliable. Mm. Et maintenant, j'ai 8 ans, 2 ans, je retiens toujours des sermons de Howard Griffiths prêchés il y a plus de 60 ans. C'est ça l'onction. Le sermon est inoubliable. Parce qu'il y a quelque chose et on ne peut pas bien le définir. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et on ne peut pas l'expliquer.
Je crois que tout le monde qui va écouter ce que vous avez dit, que ça fait 62 ans que vous avez écouté Howell Griffiths, et vous vous souvenez de ce qu'il a dit, cette onction-là.
Oui.
Et
bien sûr, on prêche pour l'onction, mais ce qui est beaucoup plus important de prier que le Seigneur soit glorifié.
Amen. Ouais. Yeah. Ouais. Comment est-ce que si je suis un jeune pasteur et je me demande comment est-ce que je peux avoir cette onction-là?
Il faut recevoir son message de Dieu.
Expliquer.
Il ne suffit pas simplement d'étudier le texte et de trouver la signification voulue du texte. On doit dire, Seigneur, me voici, je suis ton serviteur, je dois prêcher dimanche. Qu'est-ce que tu veux dire à cet auditoire-là? Dimanche prochain, qu'est-ce que tu veux dire à ces personnes? Et on cherche son message de Dieu. Et on fait ses études dans un esprit de prière, parce qu'on cherche ce que Dieu veut dire. on ne cherche pas seulement la signification voulue du texte.
Vous pouvez,
l'exégèse est importante okay. et je souligne l'importance de l'exégèse dans mon livre sur la prédication. Mais quand même, c'est une exégèse qui est faite en présence de Dieu pour lui plaire, pour, parce qu'on cherche sa volonté et on cherche aussi le bien éternel de chaque homme, de chaque femme, de chaque garçon, de chaque fille de l'auditoire.
Amen, amen. Donc, on étudie la Bible dans la présence de Dieu.
Toujours, parce que c'est... Oui, parce que... Qu'est-ce que la Bible?
La parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu. C'est un livre surnaturel. Ce livre, 100%, est un livre humain, d'origine humaine. Ce livre, quand même, est parole de Dieu. Et c'est un peu comme le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. 100% homme, 100% Dieu. Et maintenant, nous avons 100% livre humain, 100% livre divin.
Oui. Amen. Oui. Si je ne vous demande pas beaucoup, vous pouvez nous donner un exemple simple de comment donc l'explication du texte et donc l'application à...
L'application n'est pas difficile parce que si on connaît et connaît bien son auditoire. Parce qu'on peut très bien s'imaginer ce qui se passe dans la vie, quelles sont les tentations, les joies, les tendances, etc. On connaît bien l'auditoire et l'application n'est pas difficile. On est là non seulement pour lancer un défi, mais aussi pour les réconforter et pour les encourager. L'application doit être une application pastorale, n'est-ce pas? Oui.
Donc, c'est très essentiel.
Mais il faut... Moi, j'ai toujours... Dans toutes mes églises, j'ai toujours eu des gens illettrés. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une structure facile. Parce que après, chacun doit retenir ce qu'on a dit d'une manière facile. Alors, on a voit des points faciles à retenir. C'est très, très important. Alors, je travaille le texte, je prie, je médite jusqu'à ce que, comme je dis en anglais, jusqu'à ce que le texte, le paragraphe se casse.
Je comprends ce que vous voulez dire.
Si je n'arrive pas à trouver la structure, je sais que je n'arriverai jamais à le prêcher. Je dois trouver la structure d'abord. Et quand la structure est claire, il est assez facile de prêcher le passage.
Et vous savez quand vous avez trouvé la structure?
Ah oui. Cela est évident.
Okay.
Parce qu'on a prié, Seigneur, quelle est ta volonté? Je veux avoir un message du trône pour prêcher à ces gens. Voilà le passage. Souvent, on me doit dire, Seigneur, je ne comprends pas ce passage, ou je ne sais pas comment prêcher ce passage. Et on reste dans la prière, on s'attend à Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu, il est tendre. Il veut le bien-être, il désire le bien-être, la bénédiction de tout l'auditoire, n'est-ce pas? Ouais. Ouais.
Donc, c'est essentiel pour que le pasteur donc soit familier ou donc connaisse son troupeau bien pour...
Il est absolument essentiel. Le problème maintenant, c'est que nous avons pas mal de pasteurs qui prêchent et c'est tout ce qu'ils font. Ils étudient, ils prêchent, ils envoient des mails, bien sûr, mais c'est tout. Et ils ne sont jamais chez eux, ils ne sont jamais à table avec le troupeau. Ça, je ne comprends pas.
Mais il dirait que la parole est très importante et si je mets la parole avant de mon peuple...
Oui, bien sûr, la parole est importante, mais les gens aussi. Et nous sommes ici pour glorifier, glorifier le Seigneur, mais aussi pour le bien-être du troupeau. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes.
Ouais. Si j'étais un jeune pasteur et je me demandais, je ne sais pas si je suis en train donc de donner assez du temps à mon peuple et à étudier la parole, c'est comme s'il y a une... Comment est-ce que vous naviguez ça?
Il faut avoir une discipline personnelle assez rigide. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours dit à mon peuple, il vous est interdit de mourir le matin, pendant la matinée. Parce que pendant la matinée, moi, j'étudie. Mm-hmm. Je prie et j'étudie. L'après-midi, okay. Le soir, vous pouvez mourir, même pendant la nuit, si vous le voulez. Mais pendant le matin, non, jamais, jamais. C'est absolument interdit, défendu okay. de mourir le matin.
Wow, OK.
Et pendant tout mon ministère, personne ne meurt le matin. Ah. Entre le petit déjeuner et le dîner, yeah. chez nous, le dîner était à 13h.
OK.
J'étais isolé. Seul, moi, le Seigneur et l'étude. Ouais.
Et après ça, donc, vous aviez le temps pour...
Exactement. Ouais.
Okay. Ouais. Et comment est-ce que votre peuple a reçu ça?
Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Uh-huh. Oui, bien sûr. Parce que si on prêche bien et on nourrit l'auditoire, et eux sont prêts à tout pardonner. La brebis bien nourrie est très très prête à pardonner n'importe quoi chez le pasteur.
Comment est-ce que vous connaissez si vos brebis sont bien nourries ou non?
Parce que d'ordinaire les anciens rendent visite d'une façon régulière. Et une des questions qu'on pose à chaque membre, c'est qu'est-ce que tu penses de la prédication? Est-ce que les prédications vous font du bien? Est-ce que vous êtes conscient de grandir dans la grâce? Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces derniers mois? Ce genre de questions. Eh bien, et on pousse les gens aussi à passer leurs commentaires sur les prédications. Et moi, tous les 6 mois, avec mes anciens, nous avons fait ensemble une revue de la prédication, des prédications faites à l'Église pendant les 6 mois. Oui.
Est-ce que tu es la seule personne donc, qui prêchait?
Tous les anciens étaient capables de prêcher, uh-huh. mais d'ordinaire, c'était moi qui prêchais. Oui, j'ai presque toujours. Okay. C'était presque toujours moi. Oui. Yeah. De cette manière, on a un enseignement suivi, c'est plus facile.
OK. Oui. Vous avez aussi donc parlé de l'importance de la vérité et du tendresse.
Oui.
Vous pouvez expliquer un peu ce que vous avez dit, ce que vous voulez dire à cela. Yeah.
Dieu était tendre. Le Seigneur, il est rempli de grâce et de vérité. La vérité est quelque chose de très rigide, n'est-ce pas? La grâce est quelque chose de très flou, très souple.
Wow, yeah.
Alors, la vérité est la vérité. On ne peut pas changer la vérité. Mais on peut être très, 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 très abordable, très, très tendre, n'est-ce pas, avec les gens. Oui.
OK.
Yeah. Il est très important d'être constamment ému de compassion. Comme le Seigneur lui-même. Le monde est hostile, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Tous les membres sont dans le besoin, ils ont le souci, ils se tracassent pour toutes sortes de raisons, ils ont peur, ils ont des craintes. La tendresse est très importante. Le berger, du Moyen-Orient. C'est un homme très tendre, n'est-ce pas? Il est là pour aimer les brebis, pour les protéger, pour les nourrir. Yeah. Ouais.
Comment est-ce qu'on peut grandir dans cette tendresse pour son peuple? Oh,
Il faut les connaître. Et si on est vraiment humain, on se rend compte tout de suite que chacun a ses craintes, chacun a ses tentations. Ouais.
Amen. Est-ce que vous avez, quand vous regardez donc à votre vie ministérielle, si vous pensez, parce que vous étiez donc pasteur et dans le ministère pour longtemps,
Mais...
quelles sont certaines des habitudes que donc quand vous notez que c'était très important, qui t'ont aidé personnellement pour donc continuer et non seulement continuer bien avec des prédications, donc bonnes prédications.
Je n'ai pas très bien suivi la question, pardon. J'ai fait l'expérience un petit
Non,
moment.
pas de problème. Quand vous regardez à votre vie,
Oui.
donc que vous avez passé longtemps dans
Oui.
le
Oui.
ministère, quelles sont certaines des habitudes
Ah, d'accord.
qui vous ont aidé à continuer fidèlement avec cet amour pour le Seigneur, l'amour pour votre peuple,
Oui.
qui vous ont gardé?
Premièrement, il faut avoir bien sûr une vie intime avec le Seigneur qui est séparée de son ministère. Alors, chaque jour, il faut passer du temps dans la parole de Dieu avec le Seigneur simplement pour nourrir son propre âme. C'est très, très important. Il faut avoir une vie dévotionnelle, comme on dit en anglais. Une vie secrète avec Dieu.
Pas pour préparer des messages.
Il est très important d'avoir une marche avec Dieu qui est complètement séparée de son ministère. Les pasteurs qui tombent sont presque toujours eux qui négligent la prière personnelle et qui ne sont pas dans la parole de Dieu pour nourrir leur propre âme. Et aussi, il faut avoir une vie spirituelle avec son épouse aussi. Il faut prier et ouvrir la parole de Dieu avec son épouse aussi. Il y a je connais des pasteurs qui étudient la parole de Dieu, mais simplement dans le but de préparer des sermons. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ouais. Avant d'être pasteur, nous sommes chrétiens.
Amen. Amen.
Pour moi, c'est l'essentiel. Et si on ne marche pas personnellement avec Dieu, c'est fini vraiment.
Et vous disiez que ça doit être toujours, pas un jour ou 2 jours dans la
Non,
semaine,
tous les jours, tous les
toujours.
jours, tous les jours. Quand je me lève le matin, je lis un petit livre qui passe un commentaire sur quelques versets des évangiles. Puis je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je vais dans mon bureau pour avoir un long moment seul, moi, le Seigneur et le texte de l'Écriture. Et je travaille le texte, je lui pose des questions. Si je ne trouve pas de questions, j'ai un livre de questions sur chaque passage de la Bible, mais dans ce livre, il n'y a pas de réponse. Et on travaille le texte pour nourrir simplement son propre âme et pour bien connaître le Seigneur. Ouais,
Amen.
tous les jours.
Amen.
Et ensuite, je me douche et après cela, je commence ma matinée d'études pour l'Église. Ouais. Ouais. Et
Merci
la porte est
beaucoup.
fermée pour moi. La
Pour
maison, ma femme est décédée maintenant, mais la maison était toujours ouverte. Mais mon bureau, la porte était fermée le matin.
Comme donc le Seigneur dit quand vous priez,
Ouais.
fermez la porte.
Ouais, exactement.
Mais quand je pense à votre réponse, donc ça doit un peu de discipline pour faire ça tous les jours.
Discipline, routine, je ne sais pas. Il y a des gens qui me disent, ah, tu es fils de militaire, c'est facile, mais c'est pas du tout comme ça. Mon père était militaire, mais c'était un homme très, très doux. Ma mère était probablement plus militaire que mon père. Non, c'est une question de routine et de devoir. Et aussi parce que j'aime le Seigneur plus que j'aime son œuvre.
Amen, amen, yeah. Mais c'est un peu incroyable, mais je le vois aussi parce que d'avoir donc comme être pasteur pour le Seigneur, donc le peuple du Seigneur, mais ne pas avoir le temps pour le Seigneur.
Exactement, c'est bizarre en fait, c'est de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Oui. Yeah. C'est bizarre, ça ne va pas. Étudie simplement la parole pour préparer des sermons, mais au moment de mourir, j'aimerais me confier à quelqu'un que je connais bien. Je ne veux pas me confier à un étranger.
Amen. Et vous ne pouvez pas prêcher à un étranger. Donc, si vous connaissez le Seigneur mieux, ça sera aussi. Donc, je veux souligner l'importance que vous avez soulignée là de cet temps dévotionnel avec le Seigneur.
Oui.
Parce que vous le connaissez aussi quand le temps de prêcher vient.
Oui.
Vous prêchez le Seigneur que vous connaissez, qui est intime.
Tout à fait. Yeah. Oui, exactement. Oui. Et tout de suite, bien sûr, il y a un certain quelque chose dans ces prédications. Parce qu'on parle de quelqu'un qu'on est, on parle de quelqu'un qu'on aime, et on parle de quelqu'un qu'on veut connaître même mieux que maintenant. Oui. Parce qu'on peut, on peut tous, nous pouvons tous grandir dans la grâce, n'est-ce pas? Oui. On le connaît, mais on veut le connaître.
Amen. Amen. Si on parle, on change de sujet un peu pour parler de la prédication.
Oui.
Donc, on retourne là. J'ai noté que vos prédications sont très claires. C'est très facile de comprendre ce que vous disiez et ce que vous voulez dire.
Oui, mais il y a trois éléments dans la prédication, n'est-ce pas? On déclarait, illustrer, appliquer. Un tiers de la prédication, c'est expliquer le texte. Un tiers, c'est illustrer le texte. Et un tiers, c'est appliquer le texte. On fait l'application à la conscience de la personne qui se met à l'écoute.
Donc, s'il y a une personne qui écoute la prédication et qui dit que je n'ai pas compris ce que le pasteur voulait dire, ou qu'il y a de confusion après ça. Et quel conseil vous pouvez donner au pasteur ou à la personne?
Et pour cela, il faut être toujours à la disponible. Il faut être disponible. Oui. On est toujours prêt à rencontrer des gens de l'auditoire pour répondre à des questions, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Il faut être disponible, n'est-ce pas?
Oui.
Il y a des pasteurs qui prêchent et qui se cachent. Mais ça ne va pas. Nous sommes bergers. Impossible de s'occuper du troupeau si on est loin du troupeau. Impossible.
Donc, la vie pastorale, vous avez dit dans une autre place que c'est du hard work.
Oui, bien sûr. On travaille dur, oui.
Yeah. Comment est-ce que donc, quand vous avez commencé votre ministère, est-ce que vous connaissez que c'était du hard, une vie?
Oui, probablement pas, non.
Okay.
Non. Mais on travaille dur, oui, bien sûr. Et parce qu'on doit étudier, on doit rendre visite au troupeau, bien sûr, on a tout un courrier à maintenir. Et bien sûr, on a une famille, on a une épouse, on a tous les problèmes de la vie quotidienne qu'on partage avec tout le monde. Oui. Oui. Souvent, chez nous, on est pauvre. Au début de notre ministère, nous étions très, très pauvres, appauvris, vraiment. C'est difficile, oui, bien sûr. Mais...
Donc, vous, votre famille personnelle?
Oui. Nous étions très, très appauvris au début. Oui. Parce qu'on ne recevait rien, bien sûr, pour ces enfants qui étaient chez nous. Oui. Pour toutes sortes de raisons.
Oui. Qu'est-ce qui vous a fait, donc, vous et votre femme, Dole,
oui.
pour, Qu'est-ce qui vous a fait donc ouvrir votre maison et donc faire le bienvenu à tous ces enfants-là? Et comment est-ce que Dole a...
Parce que au début, au jour de notre mariage, on nous a donné une plaque pour le mettre au mur, qui avait la promesse de Philippiens 4, qui disait que le Seigneur pourvoira à toi tous nos besoins.
Amen.
Et un jour, on n'avait que 52 pence, c'est-à-dire moins d'un dollar. Mais les comptes ne seront jamais descendus en rouge, jamais, pendant toute notre vie. Oui.
Amen. Amen.
On a vu des miracles parfois sur le plan financier. C'est amusant, mais ça aussi montre que Dieu est tendre et qu'il prend soin de nous. Oui.
Amen.
Oui.
Comment vous pouvez encourager des jeunes ou n'importe quel âge des pasteurs qui sentent que donc leur position financière est
Et
très difficile à
c'est
ce
à nous de faire
moment-ci?
ce qui est juste. C'est à Dieu de pourvoir à nos besoins.
Amen. Amen.
C'est pas ma responsabilité de pourvoir mes besoins. Je fais ce qui est juste aux yeux de Dieu et c'est lui de faire le reste.
Amen. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet-là, à des donc pasteurs qui ont du travail à côté?
Oui?
Qu'est-ce que vous pensez à donc ça? On peut se demander comment est-ce que je vais avoir le temps pour étudier la Bible, pour faire des visites, pour travailler et tout cela. Comment équilibrer ça?
Je dis simplement, il faut faire ce qu'on peut. Ouais. Et si on ne peut pas, on ne peut pas. Et le Seigneur comprend très très bien la situation. Ouais. Il y a beaucoup de pasteurs à la campagne, bien sûr, qui sont pasteurs, mais ils ont un emploi à plein temps. Ils s'occupent d'une église dans le temps libre, dit libre. Et moi, j'admire ces gens, n'est-ce pas? Et il fait de leur mieux. Et le Seigneur bénit le ministère parce que ce sont des gens totalement consacrés qui font ce qu'ils peuvent. Oui.
Merci pour partager ça et votre encouragement. Si on pense donc aux pays francophones, ou
Oui.
bien semi-francophones,
Oui, j'ai passé 9 ans en Suisse romande, en Suisse francophone, bien sûr, et je garde toujours un contact avec le monde francophone, mais pas comme autrefois, bien sûr. Mais, oui. Mais je reste en contact avec mes amis en France, en Suisse, en Belgique et ailleurs, bien sûr. Mais.
Donc, il y a très des ressources anglophones.
Oui.
Si vous allez à l'Internet, vous allez trouver beaucoup de prédications. Il y a trop de livres en
Oui, mais quand
anglais.
même, on a beaucoup de ressources en français maintenant. Ça commence. Quand j'avais commencé en Suisse en 1982, on avait une petite vingtaine de livres réformés. Mais maintenant, il y a des centaines de livres. Il y a des commentaires, des théologies systématiques. On a la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. On a maintenant l'Évangile 21, Gospel Coalition, qui travaille en France, des choses comme ça. On a de plus en plus de pasteurs. Il y a une petite famille d'églises réformées baptistes maintenant en francophonie. Ces choses n'existaient pas en 82. Et le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Vraiment. Et aussi, enfin, on a des prédicateurs qui sont très prometteurs en France. Je connais un jeune homme, Joël, je ne vais pas le nommer, mais à Grenoble, c'est un homme extraordinaire. Et il sait prêcher en anglais, en allemand et en français. Il est suisse. C'est un prédicateur extraordinaire, il n'a que 30 ans. Et il y a des gens comme ça, il y a une bande maintenant de prédicateurs prometteurs dans le monde francophone. C'est très encourageant. Le Seigneur te love.
C'est très encourageant.
Et aussi, il y a des églises évangéliques indigènes indépendantes qui existent maintenant, qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et il y a des douzaines de telles églises. Aussi, il y a des gens qui travaillent en France dans l'implantation d'églises. Ouais. On a même un Américain qui est très, très... Vraiment un homme de Dieu qui prêche avec une onction extraordinaire.
En France?
En France, qui a commencé deux églises et qui va en commencer une troisième prochainement, probablement.
Ouais.
On n'avait rien de ce genre en 82.
Donc, vous diriez que à ce moment-ci, donc, l'état de la francophonie, l'Église donc, francophone, est mieux quand vous avez commencé.
Certainement. Certainement, on a des ressources, on a des encouragements qu'on n'avait pas autrefois. Mmh. Oui, certainement.
Okay. Ça, c'est très encourageant.
Oui.
Je ne savais pas. Si vous pouvez nous dire donc à votre un peu de dol, vous étiez...
De dol?
Yeah!
Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir?
Yeah, ça fait combien de temps qu'elle est décédée?
Son anciennement, comme on dit.
Yeah.
Pas son ensevelissement, son anciennement.
Anciennement, amen!
A eu lieu il y a 8 ans.
Il y a 8 ans, ok. Oui. Comment était donc les
dernières années? Elle avait la démence avant son décès. Pendant de nombreuses années, elle avait la démence. C'était des années assez difficiles, mais elle n'a jamais perdu ses affections spirituelles. Oui, c'est extraordinaire. Elle ne savait ni son nom, ni son adresse, mais quand on parlait des choses de Dieu, elle était vraiment en vie et... vraiment extraordinaire. Quel privilège de voir ça. On voit la détérioration, bien sûr, de ce qui est du corps et de l'esprit, mais on voit quand même l'amélioration de la vie spirituelle en même temps. C'est extraordinaire, ça. Oui, oui. Dole est extraordinaire. Elle était infirmière de profession, infirmière de quartier, c'est-à-dire elle était infirmière dans les maisons, etc. Mais quand nous, après notre mariage, nous avons pris la décision que moi, je travaille, bien sûr, j'étais pasteur, et elle resterait à la maison pour que nous soyons aussi hospitaliers que possible. Parce que nous étions dans une situation, dans un arrondissement très, très difficile.
Mmh.
Oui.
Wow.
Oui.
Yeah. Oui. Donc, elle était beaucoup d'aide.
Elle était accueillante. Mmh. Et oui, nous étions pauvres, mais elle était capable, je ne sais pas comment, de faire un repas de rien. En anglais, on appelait ces repas des Dolly Dinners.
Dolly Dinners. Amen, amen, yeah. Comment est-ce que comme époux et comme pasteur,
oui.
Comment est-ce que donc vous avez pris le responsable de connaître, je peux mettre, peut-être que ma femme a besoin de pause ou de reste. Comment vous avez navigué ça? C'est comme si vous étiez... Il y avait... Donc, votre plat était toujours plein.
Oui, oui, bien sûr.
Et tu avais le matin... comment
mais mon épouse était très forte.
Elle était très forte.
Oui. Elle avait beaucoup de courage. Et elle était très accueillante aussi. Et elle n'était jamais dans le pain... dans la panique. Jamais, jamais, jamais. Elle était prête à tout, franchement. Femme extraordinaire. Ouais. Et aussi, elle avait le sens de l'humour aussi.
Comme vous. Elle était comme vous ou bien vous êtes comme elle?
Oui, j'avais un sobriquet quand j'étais en Suisse. Les enfants m'appelaient Monsieur Rigolo.
Monsieur.
Alors, elle est une madame rigolo. Parce que la vie chrétienne est une vie heureuse, n'est-ce pas? C'est une vie de joie. Et être sérieux n'est pas le être sombre. On peut être sérieux sans être sombre. Et cette distinction est très importante, me semble. On est sérieux, on prend au sérieux sa foi, son Seigneur, son devoir. Mais quand même, cela dit, on est heureux, on est dans la joie. Pourquoi pas?
Ça, c'est très bon point. Je me souviens comme un jeune chrétien, je croyais que être sérieux et sombre, non, c'est comme si c'était lié. Quel conseil pouvez-vous avoir pour particulièrement des jeunes chrétiens qui peut-être sont sombres, mais il y a...
Il faut les taquiner. On n'est pas misérables, hein? Nous sommes enfants de Dieu.
Amen.
Le seul Dieu qui existe est notre Dieu, est notre Père Céleste. Jésus est venu pour moi, il est venu pour nous. Nous sommes unis à Christ. Nous sommes heureux. Mais nous ne sommes pas misérables. Nous ne sommes pas dans la misère comme ça.
Amen.
Mais on n'est pas superficiel non plus. On prend au sérieux tout ce qui est spirituel. Mais on est humain quand même. Il y a des choses qui sont vraiment extraordinaires, qui nous font rire, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours.
Quand vous regardez, vous avez à l'état de l'Église. Nous avons donc le monde est trop grand. Qu'est-ce que vous pensez à l'Église maintenant?
Ah, quelle question, hein? Impossible de répondre à ces questions en quelques phrases. Mais ce que je n'aime pas dans l'Église moderne, c'est ce que j'appelle la cruciphobie.
Ça veut dire...
C'est un mot que j'ai inventé. Souvent, on écoute un évangélique, même un calviniste, même un prédicateur très connu, qui prêche et qui ne fait aucune allusion à la croix de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit que notre gloire, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante, n'est-ce pas? Et dans le ciel, nous allons chanter de la croix, du sang de Jésus-Christ, de la rédemption, du prix de notre rédemption. Et ils arrivent quand même à prêcher des sermons et il n'y a pas de croix, il n'y a pas de rédemption. Et souvent, ils ne parlent jamais même de la personne extraordinaire de Jésus-Christ. Et ça me gêne, vraiment. Ça me vexe, ça me gêne.
Est-ce que vous pensez que ça, c'est conscient, c'est inconscient? Comment est-ce qu'on peut reverser cela? Qu'est-ce que vous disiez à des pasteurs qui vont entendre ce que vous disiez? Comment nous sommes arrivés là-bas?
Je poserai la question, est-ce qu'on va aux eaux paisibles, au pâturage vert, pour trouver le berger? Ou est-ce qu'on va au berger pour trouver les eaux paisibles et les pâturages verts? Et souvent, dans l'évangélisme de nos jours, on dit, si on prie, et si on fait ça, et si on fait ça, et si on fait ça, on arrivera enfin à atteindre le Seigneur. Ça n'est pas mon évangile. Le Seigneur est prêt à me recevoir tel que je suis, maintenant où je suis, où je me trouve. Même si je suis un fils prodigue et mes vêtements sont sales, je suis parmi les cochons, j'ai tout perdu. À ce moment-là, le Seigneur me recevra. Parce que ça, c'est l'Évangile. Cet homme reçoit des pécheurs et il mange avec eux. C'est l'Évangile. Alors, on va au berger pour trouver les eaux paisibles. on va au berger pour trouver les pâturages verts. On ne trouve pas les... et pas le contraire.
Donc, le berger soit être le centre.
Exactement. Et on peut aller directement en tant que pêcheur.
Ouais. Amen.
La porte est ouverte, mais Amen. Il n'y a pas de marche. La porte est ouverte au rez-de-chaussée. On peut y entrer sans même monter sur les marches, parce qu'il n'y en a pas. Le Seigneur me recevra tel que je suis, où je me trouve. Parce que c'est ça l'Évangile. Et je viens en tant que pêcheur, bien sûr, je viens dans la repentance, mais je viens en tant que pêcheur, c'est ça l'essentiel. Et souvent aujourd'hui, on dit, il faut un peu d'amélioration, il faut, avant d'être reçu par le Seigneur. Alors, fais ça, et enfin, vous arriverez à avoir une communion intime avec Dieu. Non, c'est pas l'Évangile.
Non. Quand nous étions pêcheurs et ennemis de Dieu.
Exactement. Ouais.
Amen.
Yeah. Et souvent, les prédicateurs modernes sont en train de prêcher l'amélioration personnelle plutôt que la grâce de Dieu.
Yeah. Prenez un peu 2 ou 3 minutes pour élaborer sur ce point-là, l'amélioration et la grâce de Dieu pour non seulement des pasteurs, mais notre audience.
Oui.
La différence entre je veux plaisir à le Seigneur, je m'améliore, ou non, je vais aller au Seigneur tant que je suis, et il va me recevoir.
Je vais au Seigneur tant que je suis, mais bien sûr, il va me recevoir, parce qu'il est rempli de grâce. Mais quelle grâce! Il m'a fait grâce, moi! Quelle miséricorde! Alors, je veux lui plaire, n'est-ce pas? Je vais faire sa volonté. Je veux connaître ses voies. Je veux marcher dans ses voies. Pourquoi pas? Oui. Et c'est parce que je suis bien reçu en tant que pêcheur par le Sauveur que je veux vivre, me comporter d'une manière tout à fait différente.
Yes.
Alors, l'amélioration se fait suite à la grâce. C'est le fruit de la grâce. C'est le résultat de la grâce.
Ouais. Ça ne vient pas avant de la grâce.
Exactement.
Yeah. Ouais. Amen. Ouais. Amen.
Alors, il y a un contact immédiat avec le Seigneur.
Yeah.
Et souvent, on prêche une sorte de médiation maintenant. Me voici, le Seigneur là-bas, et il y a toutes sortes d'étapes, des jalons entre moi et le Seigneur. C'est ça, ce n'est pas l'Évangile.
Amen.
Yeah.
Il faut être très
clair. Il me reçoit tel que je suis.
Amen.
Oui.
Amen.
Et pour moi, c'est le grand message de l'Évangile.
Amen. Et ça, c'est le message qu'on doit prêcher aujourd'hui.
Oui.
Être très clair.
Oui, mais ce message n'est prêché que très rarement maintenant. Oui. Et sûrement, certainement, dans nos milieux réformés, il y a de plus en plus d'œuvres maintenant. C'est un évangile d'œuvres. Fais ça, et vous serez reçus.
Je comprends ce que vous voulez dire clairement, mais peut-être qu'on a une personne qui se demande, mais Monsieur Stewart, vous connaissez celui qui prêche accepter Jésus. Donc, répète cette phrase après moi, je serai chrétien. Comment est-ce que...
Pour ces gens-là, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une réalité. On voit une personne qui est réelle. Lui, il est mon sauveur. Mais lui, il est mon Seigneur aussi. On ne peut pas séparer les deux. Si on embrasse le Seigneur Jésus-Christ, on embrasse le Seigneur Jésus-Christ. Qui est qui? Seigneur. Non, mais oui. Dans les Actes des Apôtres, Jésus est sauveur 2 fois seulement. Il a seulement 2 allusions à Jésus le sauveur dans tous les Actes des Apôtres. Mais 99 fois, on l'appelle Seigneur.
Wow, je ne savais pas.
Alors, si on s'approche du Sauveur, on s'approche du Seigneur. Si on embrasse le Sauveur, on embrasse le Seigneur. Impossible, impossible d'avoir easy believism, une façon facile de croire. Parce que oui, il y a des gens qui disent il faut accepter Jésus, voilà qui est fait, maintenant tu es chrétien, etc. Non, je ne peux pas accepter ce message-là, ce n'est pas l'Évangile. Je suis un pécheur, bien sûr, Jésus reçoit des pécheurs, mais je l'adore. Bon, parce qu'il il m'a fait grâce, moi.
Merci beaucoup.
Merci pour l'entretien. Merci de votre patience. Merci d'avoir supporté cette espèce de français, mais de cette mutilation de la langue de racine.
Merci. Vous pouvez prier pour nous.
Bien sûr. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta faveur. Merci pour l'Évangile que tu nous as confié.
Amen.
Merci d'avoir tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais que nous ayons, nous, moi, la vie éternelle. Merci pour cet entretien ensemble et que tu te serves de cet entretien pour édifier, pour encourager tes enfants, non seulement ici aux États-Unis et dans le Texas, mais aussi partout dans le monde. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans le monde francophone. Merci pour tous ceux qui aident, qui t'aiment, qui prient, qui proclament l'Évangile dans leur vie et dans leur comportement et aussi dans leur manière de parler. Et merci pour les prédications, les prédicateurs de l'Évangile que tu as suscités récemment. Et nous voulons, Seigneur, que tu daignes les bénir tous pour la gloire de ton nom. Merci. Reçois notre prière au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.